Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà, et pour débuter ce Tech & Co, la quotidienne, depuis Vivatech, jour 2, le débrief de ce grand salon avec Frédéric Simotel. Salut Fred.
Salut François, salut à tous.
Voilà, journaliste à BFM Business qui, ça y est, investit Vivatech. Et croyez-moi, Vivatech s'en souviendra. Quand Frédéric Simotel est là, personne ne l'oublie. Et à ses côtés, c'est Pierre Vanier qui est là. Salut Pierre.
Salut, salut
Ravis
François, salut Frédéric.
Ravi de retrouver Pierre, fondateur et PDG de Flint. Et c'est intéressant parce que Pierre Vanier vit son premier Vivatech.
Ah ouais.
Il va nous en parler dans un instant.
Le baptême.
Le baptême. Ça va, ça s'est bien passé?
Comme Marilyn Ferrari, son premier.
Voilà, à part ta boisson énergisante tout à l'heure, qui m'a un peu déçu.
Oui, je suis désolé.
Voilà, on ne va pas tout raconter, bien évidemment, parce que vous savez qu'il y a le off de Vivatech qui est très important. Frédéric Simotel, pour débuter, j'aimerais qu'on revienne sur l'origine de ce salon et à quoi il sert. Parce que c'est vrai que parfois on peut se poser la question, alors c'est pas péjoratif ce que je dis, mais il y a les salons qu'on connaît, CES, on sait que c'est l'innovation, salon d'envergure internationale, MWC à Barcelone, salon des télécoms avec toutes les têtes pensantes des télécoms qui sont là parce qu'on fait du business.
Salon B2B, oui.
Voilà, un peu comme le CES d'ailleurs, où il y a du business. Vivatech, à qui s'adresse ce salon?
Vivatech, ça a été dès le départ, et d'ailleurs il faut mettre très en avant ce qu'a voulu Maurice Lévy dès le départ. Il avait fait une première réunion il y a pas mal d'années, il avait invité Mark Zuckerberg et il s'est dit à un moment, il faut aller plus loin. Donc il a monté ce salon. Et alors la première chose qu'il a fait en bon patron de publiciste, c'est d'aller voir tous ses gros clients, les Carrefour, les Total, les EDF, et leur dire écoutez, venez sur le salon, et tiens, pour montrer l'innovation, quoi de mieux que amener les startups avec lesquelles vous pensez, vous travaillez ou vous allez travailler. Et donc c'est parti de là. On avait ces grandes entreprises LVMH, Carrefour qui venaient avec leurs startups. Et puis voilà, ça s'est développé. Alors il y a eu évidemment la parenthèse Covid.
Oui,
et aujourd'hui c'est le rendez-vous des startups et des grandes entreprises. C'est comme ça qu'il faut le voir. On a quelques figures de la tech qui sont là dans les conférences, parce que c'est vrai que ça draine aussi.
Oui, il y a du show, quand même.
Il y a du show ici, il y a beaucoup de gens qui regardent en ligne ces conférences, donc il faut aussi, on aura Elon Musk, on le rappelle aujourd'hui, alors en visio, mais voilà, il y a quelques grands noms, il y a Bernard Arnault qui sera là.
Mais est-ce que les grands patrons sont là?
Non, alors c'est ça. Moi, pour parler avec quelques execs...
On parle de grands patrons, pardon.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est pas ici que des grands patrons du digital, de Total, LVMH vont rencontrer les patrons de Qualcomm, les patrons de Intel, les patrons de Microsoft. Non, par contre,
c'est pas un salon de business.
C'est un centre business au niveau des startups.
Au niveau des startups, voilà.
Je crois que Julien Vidré l'a dit hier dans le patron de l'innovation d'EDF.
Mais c'est pas ici que se signent les gros contrats.
Voilà, on signe les contrats avec les startups, on se partage les bonnes idées, les bonnes pratiques. Mais les gros contrats entre grandes entreprises, c'est pas ici que ça se joue.
Pierre, alors, ton sentiment, premier Vivatech? Qu'est-ce qui ressort en fait
Pour moi, si tu veux, je suis dans la tech depuis 25 ans et ce que je...
Ça ne se voit pas?
Non, merci, c'est gentil,
je t'en prie.
Comme toi. Mais je suis assez mitigé, j'ai quand même l'impression que c'est un salon qui est... c'est un peu entre les deux, c'est-à-dire que c'est pas effectivement un salon pure bise. Parce qu'il y a beaucoup de grand public, il y a beaucoup de... mais c'est pas, tu vois, non plus un salon pur showcase, pure vitrine. C'est un petit peu entre les deux. Et je pense que ce qui me semble un peu compliqué pour Vivatech, c'est de trouver cette place justement entre un salon pure business B2B et un salon pure showcase, etc. Donc après, pour revenir sur
il ne faut pas bouder notre plaisir. Rendez-vous sur la tech.
On
trouve juste l'axe de développement de ce salon.
Voilà, qui est aujourd'hui d'une envergure internationale. C'est plutôt positif.
Qui est, à mon avis, de plus en plus difficile à mesure que les salons et les événements grossissent. De garder, en fait, finalement, ta vision, ta trame initiale, etc. Et puis aujourd'hui, tu as une sursollicitation de ces grands patrons, sursollicitation de tout le monde. C'est la course aussi au nombre, aux chiffres. On annonce 150 000 personnes, 120 000 au CES. Donc c'est un peu vraiment cette course au nombre, aux chiffres. Donc voilà, moi en tant que professionnel, je suis assez mitigé par rapport à ce que je vois.
Après, c'est un salon qui va jouer sur l'acculturation justement au digital, parce que longtemps on mettait le digital, alors un peu côté CES, un peu sur les gadgets, tout ça, et dans l'entreprise, bon, c'était l'IT, c'était le système d'information. Dans le grand public, c'était les iPhones, voilà, les jeux vidéo. Et là aujourd'hui, on l'a vu lors de Choose France, cet événement qui réunissait des grands, alors là pour le coup, des grands patrons du CAC 40, on est passé de la French Tech à la tech en France. Donc ce salon là, il est aussi pour montrer la France. On a les entreprises des géants et on a aussi des startups qui sont en train de monter. Donc c'est un salon intéressant pour ça.
Pour terminer là-dessus, c'est vrai que c'est un peu pas stupide, mais mal à propos de comparer ce salon avec le CES, par exemple.
Ah non, surtout
exemple.
Pas. Surtout
ça n'a rien
pas.
À voir. Non, mais parce qu'il y a toujours cette assez... bataille des chiffres. Ouais. 130 000 d'un côté, 150 par là. Ouais. Enfin bref. Mais finalement, ça n'a rien à voir.
Mais c'est
parce
très français, en fait, ça. Oui, de se comparer tout le temps aux États-Unis.
La valeur d'une présence au CES n'a peut-être pas la même valeur de présence ici aussi.
Non.
Tu vois enfin, donc c'est.
Je pense qu'il faut mieux essayer de travailler nos particularités.
Oui.
En France, plutôt que d'essayer de copier vaguement un CES. Et pour revenir sur ce que tu dis, moi je vois quand même beaucoup de gadgets, je vois quand même beaucoup de choses qui sont soit pas prêtes, soit qui vont pas perdurer dans le temps. Je rappelle mais la société Humane qui fait le petit wearable qu'on a vu,
bien sûr,
cherche à être
les iPin,
cherche à être racheté.
Ils l'ont dit officiellement ? Enfin,
c'est des rumeurs qui sont assez persistantes. Okay. Et ce qui paraît logique, parce qu'ils ont été concrètement extrêmement abîmés par un reviewer très très connu de YouTube, qui les a terminés à signer leur arrêt de mort. Donc il y a aussi une espèce de frénésie. En fait, on copie les États-Unis sur le fameux fake it till you make it. Tant que tu peux montrer que tu as envie de le faire, et je vais prendre différents exemples. OpenAI nous a vraiment fait rêver il y a une quinzaine de jours avec la keynote, mais il y a encore tout un tas de modèles qui ne vont pas être prêts. Hier, vous parliez de cette voiture, cette espèce de combi.
Oui, bien sûr.
De Renault.
Renault et de WeSings.
Exactement.
On en parlera tout à l'heure.
Software Republic.
You First Vision.
Software, exactement.
On a commencé à dire qu'il n'est pas que médical, ça peut être l'aide à l'apprentissage. Enfin, il y a plein de fonctions.
C'est pas prêt.
On en
reparlera
tout à l'heure avec Eric Carrel, le patron de WeSings, qui sera là. Pardon.
Clairement.
Vas-y, Pierre.
Ouais. Aujourd'hui, c'est pas prêt. On nous annonce des choses, mais en fait, c'est des choses qui sont encore trop fraîches, qui sont pas sécurisées. Google, c'est pareil. Il y a encore tout un tas de choses. Ça sera prêt durant l'année, etc., etc. Donc la frénésie nous met dans une attente incroyable vis-à-vis de la tech. Mais aujourd'hui, il faut essayer de reprendre un petit peu de hauteur et dire à quoi ça sert tout ça. Est-ce que ça sert nos concitoyens? Est-ce qu'on n'est pas dans une stratosphère de tech, dans une bulle? On peut se poser, on est en droit de se poser ces questions.
Oui, c'est vrai.
Je pense.
La bulle de l'intelligence artificielle, c'est pas quelque chose de complètement surréaliste. Hein. Aujourd'hui, on vit une espèce d'explosion de solutions. Beaucoup vont mourir, d'autres vont perdurer, d'autres vont évoluer. Tu parlais de ce Human Pin. Voilà, ils essaient d'être rachetés parce que effectivement ça n'a pas marché, mais peut-être qu'on va garder certaines idées de ce produit-là qui va être après développé par un Apple ou par un Google, on ne sait pas, hein, Fred, finalement.
Oui, exactement. Alors je crois que
ça fait partie de la vie de la tech, finalement. Et heureusement que c'est comme ça.
Et ici, dans ce salon VivaTech, c'est 40% à peu près des innovations présentées qui tirent parti de l'IA. Alors l'IA générative, ouais. Etc. Donc on voit aujourd'hui, oui, c'est ce qui fait vivre, hein, c'est l'IA. Et d'ailleurs, les grands, parce que je pense que tu vas y venir, mais les grandes annonces d'Emmanuel Macron autour de tout ça, les grandes annonces des grandes entreprises présentes ici, c'est autour de l'IA.
Alors, si tu n'as pas IA dans ton entreprise, dans ton pitch deck,
t'es mort.
Et maintenant, si tu n'as pas IA dans ton discours en tant que politicien, tu as perdu l'affaire.
C'est clair.
Il y a un problème.
Ouais.
Donc,
alors que l'IA, certes, est révolutionnaire, mais elle ne doit pas être partout. Enfin,
je pense que c'est l'arbre qui cache la forêt. Il faut faire attention de ne pas courir un lièvre. Alors, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de nos entreprises, PME, ETI, qui ne sont pas encore correctement digitalisées, qui ont des data qui sont complètement en vrac. Et aujourd'hui, si on leur dit, on va les mettre du copilote plus partout, Microsoft va arriver, va acculturer tout le monde, d'un coup de baguette magique, votre entreprise va se transformer. Ça a été faux pour la transformation digitale, ça va être faux pour l'IA. Donc arrêtons de refaire systématiquement les mêmes erreurs. Il y a beaucoup de marketing, il y a beaucoup de FOMO, beaucoup de.
Et puis il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas les moyens de se payer un copilote.
Mais tout à fait.
Quand on sait que c'est 30 euros la licence, enfin.
Mais tout à fait.
Bon, voilà. Donc, ça va être des grosses boîtes ou alors peut-être certaines catégories
même
personnelles.
Les grandes entreprises, hein,
bien sûr.
Et puis il faut vouloir avoir son écran qui est enregistré toutes les 20 secondes avec la nouvelle version de Windows,
ouais.
Ce qui pose quand même des questions.
Tout à fait.
Même si c'est fait en local.
De vie privée, etc.
Il y a quand même des questions sérieuses. Hein.
Ouais, c'est Elon Musk d'ailleurs qui a réagi là-dessus. Sur cette fonctionnalité de copilote plus.
Non, mais c'est révoltant.
Qui fait une espèce de qui enregistre.
Ils font un screenshot, une copie d'écran,
voilà,
toutes les 20 secondes.
Comme un magnéto, tout ce que tu es en train de faire et tu peux rembobiner, en quelque sorte.
Ah oui.
Et Elon Musk a gueulé là-dessus en disant mais c'est pas possible.
Non,
c'est. Où est-ce qu'on va, quoi, ce truc-là?
C'est dystopique.
On revient aux annonces d'Emmanuel Macron qu'on a commenté hier avec la secrétaire d'État chargée du numérique qui était sur notre plateau, Marina Ferrari. On en a parlé, mais évidemment, on va y revenir parce que. Tu as quelques informations intéressantes à nous raconter sur les dessous en fait de ce rendez-vous. C'était à l'Elysée, bien évidemment, avant l'allocution d'Emmanuel Macron, qui visiblement était très brillant.
Oui. Il y a eu un contraste en fait
c'est un sujet qui lui tient à cœur, ça se voit. Donc oui. Voilà.
Il y a eu un contraste. Alors ce que m'ont dit plusieurs personnes, c'est pas une seule personne, plusieurs personnes m'ont dit, il y a vraiment eu un contraste entre les tables rondes où il y avait de grands noms, mais qui restaient très polissés, même un peu ennuyeux. Il faut bien le dire. À l'arrivée d'Emmanuel Macron, qui a été voilà. La lumière un peu de ce rendez-vous, et qui a vraiment donné le ton et tous les, alors là pour le coup tous les professionnels se disent s'il agit de la façon dont il parle, là on y va et à fond. Il a annoncé évidemment sur la formation, il s'est beaucoup appuyé sur le rapport interministériel Philippe Aguillon et Anne Bouvrat qu'on avait reçu ce plateau. Donc c'est beaucoup appuyé là-dessus, donc il a beaucoup parlé formation, et puis surtout il s'est engagé. On parle d'un pays, il faut qu'on en soit plus actif au niveau des semi-conducteurs, mais il a dit moi je vais aller voir des fabricants taïwanais. Et puis
je t'arrête là-dessus. Ça veut dire qu'Emmanuel Macron est prêt à aller à Taïwan pour rencontrer les patrons de TSMC,
c'est sur la route de la Nouvelle-Calédonie, hein, d'un autre côté.
Cela dit, peut-être qu'au retour, il pourra. Enfin, en ce moment, je pense qu'il a d'autres chats à fouetter là-bas. Mais donc, il pourrait aller là-bas, essayer de convaincre tous ces industriels,
les faire venir,
délocaliser leur industrie en France.
C'est ça. Alors, je ne sais pas s'ils délocaliseront leur industrie en France, parce que après, je pense qu'on aura des gros soucis. Implanter une usine. C'est plusieurs dizaines de milliards.
Oui, mais enfin, pour TSMC, finalement.
Oui, mais faut trouver l'environnement. Quand on voit les difficultés qu'ont eu Microsoft à trouver un endroit pour poser leur data center, ils ont été obligés d'aller en Moselle, dans l'est de la France. Voilà. Je ne suis pas sûr que les grandes régions françaises soient prêtes à accueillir.
Ils ont été obligés. C'est bien la Moselle aussi. Pourquoi pas.
Mais le truc, c'est qu'ils ont eu des refus de plusieurs régions en disant non, pas chez nous. Donc là, ils ont trouvé cette
région. Mais alors, je ne sais pas si tu as suivi, parce qu'on en parlait hier. Justement, Emmanuel Macron aimerait revenir là-dessus pour faciliter le foncier, alléger la réglementation.
Voilà.
Et en fait, libérer la route.
C'est un peu tout ça.
En fait, tous ces patrons, enfin toutes ces industries puissent facilement s'implanter en France.
C'est aller voir ces patrons, certes, mais c'est surtout les éclairer sur toutes les mesures fiscales. Alors c'est peut-être les aider fiscalement aussi.
Il y aura des aides, évidemment.
On a notre crédit impôt recherche qui marche bien. On a c'est leur montrer tous les atouts de la France, alléger vraiment toute cette partie administrative, parce que là il en est tout à fait conscient. Donc c'est là-dessus qu'il va jouer. Petite chose aussi sur la tension Emmanuel Macron, Thierry Breton autour de l'IA Act. Ça c'est quelque chose qu'ils ont tous noté. À un moment, Emmanuel Macron dit « Bon, puis la réglementation, c'est bien, mais il ne faut pas qu'on se l'applique qu'à nous, il faut que ce soit au niveau mondial. » Donc là, je vais monter ce qui a été dit il y a, que c'était bien, mais bon, il faut aller au niveau OCDE. Là, c'était un revers pour Thierry Breton, qui d'ailleurs, à la fin du discours d'Emmanuel Macron, il s'est levé de sa chaise, il est parti tout de suite. Donc, vexé de se dire « Bon, ben, on y a acte, Emmanuel Macron, en gros, il le met sur le côté du bureau et on va aller voir l'OCDE. » Donc là, c'est un peu...
l'envie un tirage en anglais, on dit ça « pull rug », c'est un tirage de tapis.
Voilà, exactement.
Alors bon, au-delà de la petite anecdote qui est quand même assez évocatrice des tensions, vous ne trouvez pas qu'il y a quand même un double discours? À la fois, évidemment, la France toute seule, on n'y arrivera pas, il faut voir ça au niveau européen, mais malgré tout il y a des luttes intestines justement pour le pouvoir en Europe et pour qu'il y ait une espèce de, comment dirais-je, d'harmonisation.
Lui veut faire un axe franco-allemand, mais bon, compliqué.
Oui, mais les Allemands n'ont pas réagi, tu vois, encore une fois.
Oui, puis
si tu fais un axe franco-allemand, il faut que l'Allemagne donne son avis et que après ça puisse faire boule de neige pour que d'autres pays puissent s'accrocher.
Tu sais, sur d'autres sujets, il est allé un peu en portant un peu la voix française qui espérait faire bouger en Europe. Ça n'a pas bougé. Je pense aux événements qui se passent en Ukraine. Et là, les Allemands, ils ont leur Mistral, ils ont Aleph Alpha. Donc, ils vont dire, attendez, qu'est-ce qu'on fait en fusion? Enfin, voilà, ils ne se posent même pas la question, ils n'ont pas répondu. Donc, c'est un peu ça.
Il y a un vrai enjeu et récupération politique de la tech aujourd'hui qui est très importante. Ça a commencé avec la Startup Nation, la French Tech, etc. Aujourd'hui, la French Tech est un peu en panne. Les investissements, les levées de fonds sont de plus en plus difficiles, il faut le rappeler. Et donc, finalement, l'IA vient comme une cure de vitamine politique, aider le gouvernement et Emmanuel Macron dans redorer une image. Il faut rappeler quand même que de l'autre côté, il y a un énorme écart qui se passe entre la tech qu'on voit ici, qui est flamboyante, qui est avec du panache, etc. Mais la vraie économie derrière, en France, elle n'est pas si rose que ça, en
fait. Non, non, c'est sûr.
Ni pour les entreprises aussi. Ce qui fait que derrière, quand on parle d'IA, etc., aujourd'hui, il y a pas mal d'entreprises qui sont un peu en retrait par rapport à leur investissement en innovation, ben parce qu'en fait, il faut financer la prod. Il faut financer, ramener du cash et la croissance. Et aujourd'hui, c'est relativement difficile. Donc, la meilleure façon politiquement pour réussir, c'est la méthode Coué. C'est je vais bien, tout va bien, avec l'IA, on va s'en sortir.
Moi, je pense que ce qui nous manque, on dit beaucoup aujourd'hui, il faut simplifier les démarches publiques. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, on nous dit en même temps qu'il faut réduire notre budget global de dépenses publiques. Je pense qu'il y a un gros rôle à jouer au niveau des gros contrats signés avec l'armée, signés avec l'administration. Et c'est là où il faut vraiment davantage insister sur tout ce qui est technologie. Voilà, il faut la Silicon Valley s'est montée parce qu'il y a les programmes de la NASA, parce qu'il y a les programmes de l'armée américaine. Ça a été la même chose en Corée du Sud, ça a été la même chose en Chine, sous notre version. Mais je pense que là, on a vraiment un effort à fournir. Moi, si l'armée disait, écoutez, nous, on a besoin d'IA, on va pousser ouais. Et on va pousser.
Mais il faudra vraiment que cet effort soit vrai.
Énormément d'argent. Mais voilà, alors après, est-ce que c'est accepté au niveau politique ? Frédéric. Ça, c'est une autre histoire. Mais pour moi, c'est ce qui manque aujourd'hui.
Mais il faudra que cet effort il soit véridique et authentique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as quand même l'État et les gros donneurs d'ordre passent encore majoritairement par des très grosses entreprises. Il faut aussi déréguler un petit
mais
peu tout ça.
Mais je parle sur l'IA. Hein.
Les fiefs, etc. Mais même sur l'IA, c'est les très grands noms, etc. Qui ont les très gros contrats. Donc aujourd'hui, dire que les gros acheteurs de l'État doivent passer plus par les petites entreprises, par nos start-up, parce qu'en fait, elles ont besoin de ces commandes-là, elles ont besoin d'avancer là-dedans.
J'aimerais qu'on avance et qu'on évoque OpenAI qui, en sous-main, est en train de recruter en France,
oui. Hein,
de manière intéressante. Allez, amusez-vous, allez voir sur LinkedIn, vous verrez, il y a pas mal de profils qui sont recherchés par OpenAI, c'est assez intéressant. Et d'ailleurs, ici, pas mal de speakers français salariés d'OpenAI se sont exprimés.
D'ailleurs, salut Romain Huette, d'ailleurs.
Ben, je ne l'ai pas eu, figure-toi. Il nous a aidé au dernier moment.
Peut-être qu'il va passer dans le coin.
Ouais, mais alors, justement, on est pas très contents parce qu'il était calé dans, pour tout vous dire, hein, il était calé dans Tech & Co. On était très heureux d'avoir un porte-parole.
C'est des stars maintenant dans l'IA.
d'OpenAI. Et puis d'un coup, plus de news. En fait, OpenAI nous a snobé. Et franchement, c'est rare que ça nous arrive. Franchement, c'est rare que ça nous arrive. Donc, on était un peu.
Rattrape-toi au moins ta flint.
Un petit peu énervé.
On aura nos invités justement. Il y a Julie Vallée qui est une ancienne du cabinet de Vallée, qui est dans les arcanes politiques de l'administration française. Elle a été recrutée par OpenAI. Un rôle de lobbyiste. Son rôle va être d'aller voir
on
les gouvernements.
On sent que OpenAI passe à la vitesse supérieure. On va dire une taille critique maintenant qui fait qu'ils sont obligés de jouer dans la cour des grands finalement.
Et elle, par exemple, elle va s'occuper de toutes les affaires publiques. Donc ça va être aller voir les gouvernements, les liens avec OpenAI. C'est aller voir tous les éditeurs de presse pour signer ces accords comme signe OpenAI avec Le Monde et avec d'autres éditeurs de contenu. Voilà, ils ont besoin de ça aujourd'hui pour aller faire du lobbying tout simplement.
C'est pas OpenAI moi qui me m'inquiète, mais qui me
préoccupe. Ça m'inquiète pas, c'est leur stratégie.
C'est plus Microsoft. C'est plus Microsoft
qui derrière.
qui est derrière, parce que la vraie machine.
On dirait la marionnette, tu sais, OpenAI, qui est pilotée par Microsoft.
Mais bien sûr, parce que même hier ou avant-hier à l'Elysée, quand on parle de former 1 million de concitoyens, quand on parle d'acculturation, etc., qui est derrière tout ça ? C'est la formation, elle va servir avec quel support ? La formation pour les end-users, pour nos concitoyens, ça va être beaucoup de formation par des très gros groupes
bien sûr.
Qui vont proposer
Meta, Microsoft,
et mettre devant
Google, Amazon.
Ils vont mettre devant leurs solutions. Ce qui est pas mal et ce qui est normal parce qu'en fait, de l'autre côté, ils investissent 4 milliards. Alors donc, on peut quand même accepter qu'ils forment quelques-uns de nos concitoyens pour acheter les futures machines Microsoft.
Franchement, je ne suis pas contre moi ces initiatives-là malgré tout...
De toute façon, on ne peut pas le faire sinon.
On ne peut pas le faire. Alors, d'après ce que j'ai compris, il y aurait un petit budget de 10 millions d'euros
super.
Qui serait débloqué, qui ont été annoncés par Emmanuel Macron pour le Conseil national du numérique pour justement sensibiliser les Français à l'intelligence
artificielle.
Les débats
publics, les conférences, les débats citoyens, etc.
Les cafés IA, je crois.
Les cafés IA. À nouveau, on l'a annoncé ce matin dans la matinale de BFM Business.
Donc, c'est pas mal. Mais c'est vrai qu'après...
ces géants sont obligés de sponsoriser ces formations qui représentent des centaines de milliers de parts de marché.
Mais c'est ce qu'ils font depuis un moment. Hein. Ils faisaient le Google, fait un peu le rôle des pages jaunes. Voilà, c'est d'aller voir
Anthropique,
les
vrais sites. Et rappelle-toi, à l'époque du métavers, c'était pareil.
Bah, exactement. Hein,
on avait des formations métavers. Voilà.
Non, mais Google, ça fait des années que des Google, des Amazon forment des petits commerçants autour de leurs outils.
Avec leurs outils, leurs solutions.
Et l'IA arrive, donc logique. Et on en a d'autres. Hein. Dans Tech & Co Business, je reçois la présidente d'IBM qui va former aussi 10 000, 15 000 personnes dans le grand public, hein, à travers des formations gratuites de quelques heures.
Voilà, le vrai problème, c'est que Frédéric et François, c'est que l'open source là-dedans a du mal à trouver son modèle et sa place. Ce qui fait qu'en fait, on a aujourd'hui un gros bloc très puissant d'entreprises comme Google, Amazon, Anthropique, Microsoft, Meta, extrêmement puissantes. Mais de l'autre côté, c'est quand même très boîte noire. Et on en veut tous les événements là, qu'on voit aujourd'hui avec le clonage de voix, qui sont des vraies questions. Qu'est-ce qu'il y a dans ces modèles? On ne sait pas trop, ils sont fermés. Donc, il y a un vrai problème de trouver pour l'open source sa voie économique pour permettre d'avoir une contrepartie plus ouverte, plus décidable, plus observable, plus prédictible. Et peut-être que la France a quelque chose à jouer là-dedans. Voilà.
Tiens, c'est Sam Altman qui s'est pris une petite claque de la part de Scarlett Johansson, hein, avec une voix qui est arrivée avec ChatGPT 4o.
Ça pose des questions très, très, très
bien sûr.
Philosophiques.
Mais ça fait un moment que ça plane, hein, cette histoire-là. Mais là, on se retrouve vraiment avec un cas concret. Hein. Et donc, l'une des voix de ChatGPT 4o, c'était la voix de Scarlett Johansson. Alors, OpenAI est toujours démenti, mais Scarlett Johansson a dit écoutez la voix, écoutez ma voix. Vous allez voir, c'est pareil.
Le problème, c'est que quand tu compares les deux voix.
Et donc là, c'est les avocats qui discutent maintenant.
Mais quand tu compares les deux voix, elles sont foncièrement très différentes. Le seul problème, c'est qu'en fait, Sam Altman et OpenAI, depuis des mois, ont avancé et instillé dans la tête des gens, imprimé dans la tête des gens, que le film Her était inspirante et que ça allait être la voix. Et au final, au bout d'un moment, quand on fait écouter la voix dans la tête des gens, même si c'est la voix de Raymond DeVos, ça ressemble à Scarlett Johansson.
D'autant que Sam Altman, ça fait des mois qu'il court après Scarlett Johansson pour essayer de la convaincre de numériser sa voix.
Et elle n'a pas voulu.
Elle n'a pas voulu. Donc voilà. Il nous reste quelques instants, Fred. Tu as pu rapidement parcourir les allées de ce salon. Est-ce que tu as des coups de cœur?
Alors, mon coup de cœur, tu vas en parler certainement avec Eric Carrel. C'est ce véhicule là, présenté par Software Republic. Software Republic, c'est Renault, Dassault Systèmes, Orange, Atos. Enfin, voilà, ils sont plusieurs.
Si, mais ça a l'air d'être une vraie réussite, cette association-là.
C'est un concept pour l'instant, mais ça s'appelle You First Vision. C'est une camionnette. Alors là, avec Eric Carrel, tu vas en parler de sa structure modulaire dédiée à la santé. Mais ça peut très bien être une petite structure qui va être envoyée dans des villages pour l'apprentissage au numérique. Ça peut être une structure qui peut être adaptée à la réparation. On fait tous du vélo aujourd'hui, à la réparation de vélo. Donc voilà, donc c'est plutôt intelligent. Ils ont signé, donc ils ont la base. Et après, derrière, ils vont signer avec tout un tas, avec Eric Carrel, avec Luxottica, parce qu'on pourra faire du contrôle de vision, avec Presence Care, qui est du l'IA médical assisté. Et je trouve ça plutôt intelligent. Voilà le véhicule, voilà la plateforme. Maintenant, rajoutez des services dans les domaines que vous voulez.
T'as vu des trucs, toi?
Ça reste un prototype.
Ça
ne sera pas prêt ni cette année, ni l'année prochaine. Ça reste du concept.
Ouais, mais on me dit mon coup de cœur, moi j'aime bien.
C'est génial. Le concept est très bien. Non, j'ai pas vu de coup de cœur. J'ai pas vu de coup de cœur aujourd'hui. J'attends avec impatience le dieu vivant qui va arriver cet après-midi, Elon Musk.
Il est en visio,
mais
il peut pas venir chaque année aussi.
On se posera la question de savoir si c'est pas un clone finalement. Un hologramme
de... séance de questions-réponses.
Ça sera peut-être un deepfake.
Et moi, juste parmi les petites choses que c'est en marge de Vivatech, mais il y a une audition au Sénat de Arthur Mensch. Et alors,
donc l'un des cofondateurs
de Mistral qui dit: en France, on a de bons ingénieurs, mais on n'a pas assez de marketing. Il nous manque encore des gens pour vendre. Et là, je me suis dit,
il manque pas d'air
de parler de ça. Oui, ils sont hyper brillants, mais justement...
On a des très bons marketing et communication en France. Et d'ailleurs, on a plein qui cherchent du boulot.
Allez sur LinkedIn, Mistral.
Donc Arthur, vous trouverez. Si tu cherches des bons professionnels en com et market, on pourra t'en donner.
Voilà. Et puis Arthur, si tu veux venir sur le plateau de Tech & Co, t'es le bienvenu. C'est pas faute de t'avoir proposé de venir t'exprimer, nous présenter Mistral. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci
à toi.
Voilà
le deuxième débrief de ce jour 2 de VivaTech avec Frédéric Simotel, journaliste à BFM Business, et Pierre Vanier de Flint. Merci à tous les deux.
Merci François, merci.
Et on poursuit avec la robotique. Vous connaissez Enchanted Tools? Alors je sais que Fred, oui. Tu connais Enchanted Tools ou pas?
C'est le petit robot avec sa figure un peu jaune, là, avec, qui ressemble à Astro un peu.
Tout à fait.
Pour ceux qui ont reconnu Astro.
Qui a Enchanted rencontré Satya Nadella.
Ben c'est pas un Aldébaran bis, ça, en fait?
Et exactement, parce que l'un des fondateurs était chez Aldébaran.
Ah ben
il a travaillé avec Bruno Maisonnier.
Mais en fait, la question, ça sert à quoi?
Eh bien, tu vas le savoir dans un instant, parce que l'IA générative arrive sur ces robots.
Ah.
Et ça va tout changer.
Ça va tout changer, ouais.
Voilà. Tech & Co, la quotidienne depuis VivaTech. Merci d'être là, tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.